This evening, our souls have reached toward heaven.
Ce soir, notre âme s'est élevée vers les cieux. Nous avons été bénis par de la magnifique musique et des messages inspirés. L'Esprit du Seigneur est présent. Sir Julie Beck, Sylvia Allred et Barbara Thompson, remerciez les cieux de vos chers parents, de vos instructeurs, de vos dirigeants des jeunes et des autres qui ont reconnu en vous votre potentiel. Pour paraphraser une pensée, on ne connaît jamais la valeur d'une jeune fille. Il faut attendre pour voir. Mais toutes les femmes hautement considérées ont un jour été des jeunes filles. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous. J'ai conscience qu'en plus des sœurs assemblées au centre de conférence, il y en a des milliers qui regardent et écoutent cette réunion diffusée par satellite. Tandis que je vous parle, je suis conscient qu'en tant qu'homme, je suis en infériorité numérique et que je dois être prudent dans mes propos. Cela me rappelle l'homme qui est entré dans une librairie et qui a demandé de l'aide à la vendeuse. Avez-vous le livre qui s'intitule « L'homme, le maître de la femme » ? La femme l'a regardé droit dans les yeux et lui a répondu d'un ton sarcastique « Allez voir au rayon fiction ». Je vous affirme ce soir que je vous honore, vous, les femmes de l'Église, et je suis bien conscient, pour citer William R. Wallace, que c'est la main qui pousse le berceau, qui est la main qui dirige le monde. En 1901, Lorenzo Snow a dit, « Les sœurs de la société de secours ont servi les personnes dans l'affliction. Elles ont entouré de leur amour les orphelins et les veuves, et se sont préservés des souillures du monde. Je peux témoigner qu'on ne trouve pas femme plus pure et plus respectueuse de Dieu que dans les rangs de la société de secours. » Fin de citation. Comme à l'époque de Frère Snow, il y a de nos jours des visites à rendre, des salutations à donner et des âmes affamées à nourrir. En regardant la société de secours aujourd'hui, je me sens tout petit de par l'honneur que j'ai de m'adresser à vous et je demande à notre Père Céleste de me guider. Dans cet esprit, je ressens le besoin de donner à chaque membre de la société de secours du monde entier, trois objectifs à atteindre. En premier, étudier diligemment. Deuxièmement, prier avec ferveur. Et troisièmement, servir de bon cœur. Examinons ensemble ces trois objectifs. Premièrement, étudier diligemment. Le Sauveur du monde a dit, « Cherchez des paroles de sagesse dans les meilleurs livres. Cherchez la connaissance par l'étude et aussi par la foi. Sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. L'étude des Écritures fortifiera notre témoignage et celui des membres de notre famille. Nos enfants aujourd'hui grandissent entourés de voix qui les pressent d'abandonner ce qui est juste et de rechercher à la place les plaisirs du monde. S'ils ne sont pas fermement ancrés dans l'Évangile de Jésus-Christ, qu'ils n'ont pas le témoignage de la vérité et la détermination de vivre dans la justice, ils seront fragiles face à ces influences. Il est de notre responsabilité de les fortifier et de les protéger. Nos enfants aujourd'hui sont éduqués dans des proportions alarmantes par les médias, notamment par l'Internet. On rapporte qu'aux États-Unis, un enfant regarde la télévision 4 heures par jour en moyenne. Une grande partie des programmes étant occupée par la violence, l'alcool, la drogue et le sexe. Regarder des films et jouer à des jeux vidéo vient en plus des 4 heures. Et les chiffres sont très semblables dans d'autres pays développés. Les messages qui passent à la télévision, au cinéma et dans les autres médias sont bien souvent en opposition directe à ce à quoi nous voulons que nos enfants adhèrent et qu'ils chérissent. Nous avons la responsabilité non seulement de leur enseigner à être saints d'esprit et fidèles à la doctrine, mais aussi de les aider à le rester, quelles que soient les forces extérieures qu'ils peuvent rencontrer. Cela demandera beaucoup de temps et d'efforts de notre part. Et pour aider les autres, nous avons nous-mêmes besoin d'être courageux spirituellement et moralement pour résister au mal que nous voyons de toutes parts. Nous vivons à l'époque dont il est question dans 2e Néphi, au chapitre 9, « Oh, la vanité et la fragilité et la folie des hommes. Lorsqu'ils sont instruits, ils se croient sages et ils n'écoutent pas les recommandations de Dieu, car ils les laissent de côté, pensant savoir par eux-mêmes. C'est pourquoi leur sagesse est folie et elle ne leur profite pas. » Et ils périront. Mais être instruit est une bonne chose si l'on écoute les recommandations de Dieu. Fin de citation. Il faut être courageux pour respecter fermement ces principes, malgré les moqueries du monde. J. Reuben Clark, fils, qui a été membre de la première présidence pendant des années, a dit, « On connaît bien des cas où des hommes qui croyaient avoir la foi et qui détenaient des postes de responsabilité pensaient que s'ils déclaraient leur foi complète, ils risquaient de s'attirer la moquerie de leurs collègues incroyants. Ils ont alors préféré s'excuser de leur croyance, les édulcorer, ce qui est destructeur, ou même prétendre les renier. Ce sont des hypocrites. » Il me vient à l'esprit les puissants versets 7 et 8 du chapitre 1 de 2 Timothée dans le Nouveau Testament. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Outre l'étude des choses spirituelles, la connaissance des matières profanes est également essentielle. L'avenir étant souvent incertain, il nous appartient donc de nous préparer à ces aléas. Les statistiques révèlent qu'il peut arriver, en raison de la maladie ou de la mort de votre mari, ou par nécessité économique, que vous deviez subvenir aux besoins financiers. Certaines d'entre vous ont déjà ce rôle. Je vous exhorte à faire des études, si vous n'êtes pas en train de le faire, ou que vous ne l'avez pas encore fait, afin que vous soyez prête à pourvoir aux besoins si la situation l'exige. Vos talents se développeront si vous étudiez et apprenez. Vous serez capable de mieux aider vos enfants à apprendre, et vous aurez l'esprit en paix, car vous saurez que vous vous serez préparé aux éventualités que vous pourrez rencontrer dans la vie. Je répète, étudiez diligemment. Le second objectif que je tiens à mentionner est de prier avec ferveur. Le Seigneur a commandé, « Prie toujours, et je déverserai mon esprit sur toi, et grande sera ta bénédiction. » Il n'y a peut-être jamais eu de moment où nous ayons eu plus besoin de prier et d'enseigner aux membres de notre famille de le faire qu'aujourd'hui. La prière est une défense contre la tentation. C'est par la prière sincère et fervente que nous pouvons recevoir les bénédictions et le soutien nécessaire pour poursuivre notre chemin dans notre voyage, parfois difficile, que nous appelons la condition mortelle. Nous pouvons enseigner l'importance de la prière à nos enfants et à nos petits-enfants par la parole et par l'exemple. Je vais vous faire part d'une leçon d'enseignement par l'exemple que m'a décrite une mère concernant la prière. Elle m'écrit, « Cher frère Monson, parfois je me demande si je sers à quelque chose dans la vie de mes enfants, surtout parce qu'en étant seul et ayant deux emplois pour joindre les deux bouts, il m'arrive, en rentrant à la maison, de trouver un désordre indescriptible, mais je ne perds jamais l'espoir. » Elle continue et ajoute que ses enfants et elle regardaient la conférence générale quand je parlais de la prière. Son fils lui a dit, « Maman, tu nous as déjà enseigné cela. » Elle lui a demandé, « Mais que veux-tu dire ?» Il a répondu, « Tu nous as appris à prier et montré comment le faire. Mais l'autre soir, je suis allé dans ta chambre pour te demander quelque chose, et je t'ai vu à genoux, en train de prier notre Père Céleste. Si Dieu est important pour toi, il sera important pour moi. » La lettre disait en conclusion, « On ne sait jamais quelle influence on a, tant qu'un enfant ne nous a pas vu faire, nous-mêmes, ce qu'on essaie de lui apprendre à faire. » Fin de citation. Il y a quelques années, juste avant de partir de Salt Lake City pour assister aux réunions annuelles des scouts d'Amérique à Atlanta en Géorgie, j'ai décidé d'emporter suffisamment d'exemplaires du New Era afin de faire connaître cette excellente publication aux officiels scouts. Lorsque je suis arrivé à l'hôtel à Atlanta, j'ai ouvert le paquet de magazines. J'ai remarqué que ma secrétaire, sans raison apparente, avait ajouté deux exemplaires du numéro de juin qui parlait du mariage au temple. Je les ai laissés dans la chambre de l'hôtel et, comme prévu, j'ai distribué les autres. Le dernier jour de réunion, je n'avais aucun désir d'assister au banquet prévu, mais me suis senti poussé à retourner à ma chambre. Le téléphone sonnait quand je suis entré. La personne qui appelait, membre de l'église, avait appris que j'étais à Atlanta. Elle s'est présentée et m'a demandé si je pouvais donner une bénédiction à sa fille de 10 ans. J'ai accepté volontiers. Elle m'a dit qu'elle, son mari, sa fille et son fils viendraient tout de suite à l'hôtel. Tandis que j'attendais, j'ai prié pour recevoir de l'aide. Les applaudissements de la convention ont été remplacés par des sentiments de paix qui ont accompagné la prière. Ensuite, on a frappé à la porte et j'ai eu la chance de rencontrer une famille formidable. La fille âgée de 10 ans marchait à l'aide de béquilles. Elle avait dû être amputée de la jambe gauche à cause d'un cancer. Cependant, son visage était radieux et sa confiance en Dieu inébranlable. Je lui ai donné une bénédiction. La mère et le fils se sont agenouillés au bord du lit et le père et moi avons posé les mains sur la petite fille. Nous avons été guidés par l'Esprit de Dieu. Son pouvoir nous a profondément touchés. J'ai senti les larmes couler sur mes joues et tomber sur mes mains, posées sur la tête de cette magnifique enfant de Dieu. J'ai parlé d'ordonnances éternelles et d'exaltation de la famille. Le Seigneur m'a inspiré d'exhorter cette famille à aller au Saint-Temple de Dieu. À la fin de la bénédiction, j'ai appris qu'elle avait prévu d'aller au Temple. La famille a posé des questions sur le temple. Je n'ai entendu ni voix céleste, ni eu de vision. Cependant, ces paroles me sont clairement venues à l'esprit. Parle du New Era. J'ai regardé la commode et les deux exemplaires supplémentaires du New Era sur le temple y étaient. J'en ai donné un à la fille et l'autre aux parents. Nous l'avons parcouru ensemble. La famille a dit au revoir, et la chambre s'est une nouvelle fois fait silencieuse. Je n'ai pas tardé à prier pour dire merci, en prenant à nouveau la résolution de toujours prendre le temps de prier. Mes chères sœurs, ne priez pas pour avoir des tâches à la hauteur de vos capacités, mais priez pour avoir la capacité d'être à la hauteur de vos tâches. Ensuite, l'accomplissement de vos tâches ne sera pas un miracle, mais vous serez le miracle. Priez avec ferveur. Pour finir, servir de bon cœur. Vous constituez une grande force bénéfique, une des plus puissantes du monde. Votre influence va au-delà de vous et de votre foyer et touche d'autres gens tout autour du monde. Vous avez tendu la main à vos frères et sœurs de l'autre côté de la rue, à l'autre bout de la ville, de l'autre côté de votre pays, par-delà les continents et les océans. Vous incarnez la devise de la société de secours. La charité ne périt jamais. Vous êtes bien sûr entouré d'occasions de rendre service. Il vous arrive certainement parfois de voir tant d'occasions que vous vous sentez quelque peu débordé. Par où commencer? Comment arriver à tout faire? Comment faire un choix entre tous les besoins que vous remarquez? Où et comment servir? Souvent, il suffit de petits actes de service pour édifier autrui et faire du bien. Une question sur la famille, de brèves paroles d'encouragement, un compliment sincère, un petit mot de remerciement, un bref appel téléphonique. Si nous sommes observateurs et sensibles, et si nous suivons les murmures qui nous sont adressés, nous pouvons faire beaucoup de bien. Parfois, bien sûr, ce n'est pas suffisant. Récemment, j'ai appris le service compatissant rendu à une mère lorsque ses enfants étaient très jeunes. Elle se réveillait souvent en pleine nuit pour répondre aux besoins de ses petits, comme le font les mères. Souvent, son amie et voisine d'en face venait le lendemain et disait « J'ai vu la lumière allumée au milieu de la nuit. Je sais que tu étais debout avec les enfants. Je vais les prendre chez moi pendant quelques heures, le temps que tu fasses une sieste. » La mère a dit, « J'étais si reconnaissante de son offre bienvenue que ce n'est qu'au bout de nombreuses reprises que je me suis rendu compte que, si elle avait vu la lumière au milieu de la nuit, c'est qu'elle était elle aussi debout avec l'un de ses enfants et qu'elle avait besoin d'une sieste tout autant que moi. Elle m'a enseigné une grande leçon. Et depuis, j'essaie d'être aussi à l'affût qu'elle, des occasions d'aider les autres. » Fin de citation. Les services rendus par la vaste armée des instructrices visiteuses de la société de secours sont innombrables. Il y a quelques années, j'ai appris que deux d'entre elles ont aidé une veuve en deuil, Angela, la petite fille d'un de mes cousins. Le mari et un ami d'Angela étaient partis faire du motoneige et sont morts, emportés par une avalanche. Chacun d'eux laissait une femme enceinte. Pour Angela, il s'agissait de leur premier enfant. Et pour l'autre, en plus du bébé à venir, il y avait un nourrisson. Au funérailles du mari d'Angela, l'évêque a rapporté qu'au moment où il avait appris l'accident tragique, il était allé directement chez Angela. Tout juste après son arrivée, on avait sonné à la porte. Angela avait ouvert la porte, c'était ses deux sœurs visiteuses. L'évêque a dit qu'il les a regardées exprimer sincèrement leur amour et leur compassion à Angela. Les trois femmes pleuraient ensemble. Il était évident que ces deux excellentes instructrices visiteuses se souciaient profondément d'Angela. Comme peut-être seules les femmes savent le faire, elles ont gentiment indiqué, sans qu'on le leur demande, ce qu'elles feraient exactement pour aider. Il était évident qu'elle serait aux côtés d'Angela tant qu'elle aurait besoin d'elle. L'évêque a exprimé sa profonde gratitude de savoir que ses sœurs seraient une réelle source de réconfort pour elle dans les jours à venir. De tels actes d'amour et de compassion sont répétés encore et encore par les merveilleuses instructrices visiteuses de l'Église. Pas toujours dans des situations aussi dramatiques, mais néanmoins toujours de manière aussi sincère. Je suis profondément reconnaissant aux parents qui, avec amour et compassion, donnent de la nourriture aux gens qui ont faim, des vêtements à ceux qui sont nus et un toit à ceux qui sont sans abri. Celui qui remarque la chute d'un passereau ne sera pas sans remarquer un tel service. Le désir d'édifier, la volonté d'aider et la générosité émanent d'un cœur rempli d'amour. Servir de bon cœur. Notre prophète bien-aimé, le président Hinckley, a dit de vous, Dieu a placé dans la femme quelque chose de divin qui s'exprime dans sa force tranquille, dans le raffinement, dans la paix, la bonté, la vertu, la vérité et l'amour. Fin de citation. Mes chères sœurs, puisse notre Père Céleste bénir chacune de vous, mariée ou célibataire, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre vie, afin que vous méritiez d'entendre la salutation glorieuse du Sauveur du monde. C'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est là ma prière et la bénédiction que je vous donne. Et aussi l'épouse Ruth de James E. Fowles qui est ici ce soir sur le premier rang et leur famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen.